Bonjour et bienvenue dans Les mots qui délivrent, le podcast 100% belge qui parle d'écriture et de lecture. Tu vas découvrir à quel point les mots nous font du bien et peuvent même parfois nous sauver. Moi, c'est Héloïse. Je suis coach littéraire et bibliothérapeute. J'ai fondé Le mot qui délivre et le Slow Reading Club après avoir renoué avec la magie des mots et le plaisir des livres. Les histoires m'ont toujours passionnée, et plus encore celles des gens, des vrais, ceux que tu croises dans la rue, avec qui tu parles autour d'un café. Je suis convaincue que nos vies sont la plus grande source d'inspiration. Tout est là. Il n'y a plus qu'à observer, se poser et raconter. Dans ce podcast, j'interviewe des personnes pour qui les mots ont pris une place capitale, que ce soit à travers la lecture ou l'écriture. Des personnes comme toi et moi, qui naviguent à travers la vie avec cette boussole-là. Quels sont les mots qui aident à avancer ? Quels sont les mots qui aident à mieux se connaître, à se libérer ? Parce que oui, les mots délivrent. Et c'est ce qu'on va découvrir avec notre prochaine invitée. Madeleine a deux étoiles au-dessus d'elle, qui brillent fort. Si fort qu'elles inondent son corps et son cœur d'un amour inconditionnel. Elle a perdu ses deux petits garçons, Jules et Timothée. C'est déchirant, douloureux. Mais un canal s'est ouvert pour Madeleine, celui de l'écriture, dans lequel elle a pu déverser tout ce qu'elle a enduré. D'abord par des lettres pour elle et ses enfants, et puis grâce à un roman publié aujourd'hui, qui constitue un écrin sobre, digne et rempli d'espoir pour raconter. C'est un épisode sensible, évidemment, car il aborde ce qu'aucune mère ne voudrait vivre. Mais il est avant tout gorgé de lumière, de mots généreux. On part donc à la rencontre d'une femme touchante, inspirante, qui, personnellement, m'a marquée à tout jamais. Belle écoute, douce écoute. Bonjour Madeleine.
Salut Héloïse.
Alors, je dis Madeleine, Héloïse, mais j'ai l'impression qu'on... On se retrouve alors qu'on s'est connus il y a longtemps.
Il y a quand même très longtemps.
Oui. On était en secondaire et on a grandi dans la même région, on va dire. Et j'ai un souvenir de toi, je te l'ai partagé déjà avant, mais j'ai un souvenir hyper festif d'un nouvel an où tu nous as invités. Et moi c'est un souvenir mémorable où on a passé vraiment... une super soirée entre jeunes, entre ados, à danser, à fêter le nouvel an. Et quand j'ai vu que tu sortais ton livre, quand j'ai découvert ton histoire et que maintenant à présent je l'ai lu, cette image m'a accompagnée du début à la fin de l'histoire. Et donc je voulais vraiment te le dire et te l'envoyer. Tu te souviens de ce moment, nouvel an, un peu guindaille?
Ben oui, et je me souviens de l'amusement et du sens de la fête et de la joie et de la bonne humeur. Oui, je me souviens de ça et c'est vrai que... Je peux imaginer que tu me retrouves telle que j'étais, puisque je n'ai pas tant changé.
Non.
Et donc ça me fait presque plaisir quand tu dis ça. Je me dis, ben donc la preuve est qu'on est qui on est, on reste ouais. Ce qu'on est.
Mais je te le dis parce que c'est venu spontanément comme ça. Et en même temps, je me suis dit, c'est fou parce que, je ne te cache pas, j'avais aussi une appréhension de t'inviter. Alors que la première idée, c'est j'ai envie d'interviewer Madeleine. Elle est écrivaine, elle est autrice. Elle a été racontée une histoire qui est forte, on en parlera, on développera probablement par la suite, mais... Et en même temps, ça fait peur. C'est une des seules fois où j'ai vraiment eu un peu peur d'interviewer quelqu'un, c'est de me dire, est-ce que je suis capable ? Est-ce que je suis capable de créer un espace où j'accueille Madeleine comme elle est ? J'accueille Madeleine dans un espace où elle se sent en sécurité elle-même. Et en fait, on s'est vu, on a bu un café, on a papoté, et j'ai retrouvé la Madeleine de la guindaille.
Oui, c'est ça. Donc, il ne fallait pas avoir peur du tout, mais c'est vrai que je peux comprendre, vu l'histoire, que ce soit quelque chose d'un petit peu angoissant, mais j'ai tellement de choses à dire que rien ne m'arrête, en fait.
Ouais.
J'ai pas peur, et il ne faut pas avoir peur.
Mais c'est super. Et en même temps, on est dans un podcast, on est dans des discussions qui sont vraiment orientées sur le ressenti profond avant les mots, parce que même si les mots sont importants, et mon ressenti profond... L'intuition était déjà là. L'intuition disait déjà, n'aie pas peur. Tout va bien. On échange, on se connaît, on partage des trucs. Et après, je me suis dit, mais c'est juste, j'ouvre la porte, je te vois, on boit un café. Donc, Madeleine, je suis d'abord heureuse de te retrouver.
Plaisir aussi.
Et effectivement, on n'est pas là pour parler que de souvenirs de secondaire, d'ado, mais tu as écrit un livre. Un livre qui s'appelle « Certaines étoiles brillent plus fort », qui est paru en juin 2021, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Est-ce que, avant de nous raconter cette histoire du livre, cette histoire de comment tu l'as écrit, Moi, je te connais un peu, mais je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices qui ne te connaissent pas beaucoup. Comment tu as envie de te présenter? Qu'est-ce que tu as envie de dire de toi aujourd'hui, automne 2021? Qui est Madeleine?
En tout premier lieu, j'ai envie de dire que je suis la maman de Jules et Timothée, donc, qui sont morts à l'âge de 7 et 4 ans.
Ouais.
Je suis accessoirement prof de langue et je suis l'amoureuse folle de mon amoureux Julian. Donc, c'est ça qui me définit le mieux, ces trois choses-là.
C'est beau, mais en tout cas, il y a de l'amour. On entend déjà beaucoup d'amour.
Oui, 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 ça c'est certain.
Dans cette manière de te présenter.
C'est ça qui me porte vraiment très fort.
Ben, on le sent, je trouve, on le sent dans ton texte, on y viendra. On sent beaucoup d'amour du début à la fin. On sent qu'il y a aussi de l'amour qui t'enveloppe quand je te parle, quand on discute de plein de choses. On a passé beaucoup de temps à papoter.
Oui.
Et on entend tout cet amour, c'est présent. Du coup, ce livre, moi je vois les réseaux sociaux, j'aime bien voir tout ce qui se passe niveau écriture, je suis les maisons d'édition, les projets, je vois une maison d'édition qui apparaît, édition Fardage. Donc déjà, je me réjouis, je me dis, une super initiative dans le paysage liégeois, belge francophone.
Bien sûr.
Première heureuse surprise, et puis véritable surprise, je vois Madeleine Bosley va sortir un livre bientôt. Et là, je suis en état un peu de choc, d'excitation, de « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, je découvre que Madeleine Bosley vient d'écrire un livre sur son histoire. Et je me suis dit « Sensationnel, quoi !» Parce qu'elle a probablement réussi un super défi dans son parcours personnel. Est-ce que toi, tu peux nous raconter comment tu viens à cette écriture?
Mais donc, oui, oui. Donc, le 30 septembre 2017, le père de mes enfants décide de leur ôter la vie de façon complètement horrible. Il n'y a pas de mots. Je ne sais même pas s'il faut développer. Les gens pourront aller chercher comment ils sont morts s'ils veulent. Et s'ensuit l'horreur absolue. Les faits d'abord, l'enterrement, le vide, le manque, la peine, je ne sais même pas tout ce qui se passe, mais il se passe énormément de choses et rien du tout en même temps. Et puis une enquête de la police et puis un procès.
Ouais.
Tout ça, ça s'étale sur des mois, si pas des années.
Ça prend beaucoup de temps.
Ça prend beaucoup de temps et moi je m'applique énormément parce que c'est chaque fois rendez-vous avec mes enfants. Donc chaque fois que je vais à la police apprendre combien de coups... chaque fois que j'ai rendez-vous avec le service d'aide aux victimes pour voir ce qu'il lui a dit dans sa déposition, blablabla. Il y a énormément de choses à apprendre. Et donc ça me nourrit, même si c'est horrible. Mais ça m'occupe l'esprit et j'ai rendez-vous avec eux et j'en sais un petit peu plus à chaque fois. Mais il se trouve qu'il y a des moments en fin de journée où je suis déconnectée et mes bras sont vides et je n'ai rien à faire. Il n'y a pas de bain à donner, il n'y a plus rien. Et donc, à ces moments-là de vide intense... Je ne sais pas comment m'est venue l'idée de leur envoyer des petits mails que je n'envoyais pas, en fait, qui restaient dans mes brouillons. Mais donc, j'avais besoin de me reconnecter à eux, de leur dire des choses. Et au lieu de parler au mur, je me suis dit, je vais leur écrire. Et donc, j'ai commencé à dire, voilà, on est telle date. Si vous aviez été là, comme ci, comme ça, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Vous me manquez. Et bon, je me répète tous les jours et je dis tout le temps la même chose. Mais j'ai l'impression que pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure, je suis avec eux, je leur dis ce que j'ai besoin de leur dire. Et donc j'écris au fil des mois qui passent, et puis le procès m'occupe, le procès a lieu, et puis après le procès, donc après l'enquête et puis après le procès, ben, le vide est vraiment réel, et là c'est vraiment terminé, je sais qu'il n'y aura plus rien du tout et que je n'aurai plus de nouvelles de mes enfants.
C'est plus rien ne t'occupe dans ces semaines et ces mois.
Voilà, il faut un autre projet, il faut avancer, il faut se dire que cette page-là, elle ne sera jamais tournée, mais on ne m'apportera plus de nourriture, c'est terminé.
Ouais.
Et donc, je me dis, toutes ces lettres que je leur ai envoyées, je vais les partager avec mon papa.
Oh, oui.
Donc, je les envoie à mon papa qui trouve ça magnifique, mais qui connaissait Jules et Timothée, donc qui est évidemment plus touché, je me dis, moi, qu'un lecteur autre. J'essaye avec une de mes sœurs aussi, qui est excessivement touchée, qui me dit, c'est magnifique, tu devrais partager. Ouais. Puis, je me dis, en fait, pendant le premier confinement, pourquoi je n'engloberais pas mes lettres dans une histoire? Ce serait plus facile de partager avec n'importe qui. Et ainsi, je pourrais prouver au monde entier, enfin même pas prouver, j'ai besoin de prouver rien à personne, mais dire au monde entier comme j'aime mes enfants.
C'est ça.
J'ai pas besoin de prouver, c'est pas ça le mot.
C'est un méga message d'amour.
C'est ça, j'ai besoin de dire, je vis, je ris, je suis heureuse avec Juliane et avec ma famille, j'aime vivre, mais j'ai un trou béant dans le cœur et...
Ouais.
Tout le monde peut le savoir et tout le monde peut savoir comme ils étaient magnifiques et comme ils méritaient de vivre plus.
Ouais, c'est ça. Et ça vient par email, c'est ça qui est intéressant parce que moi je revois le livre ici, je lis, je vois, je constate l'être dans cet objet livre. Mais là tu m'amènes quelque chose de super intéressant, c'est que c'est ce déclic d'aller écrire un mail, quoi.
C'est ça.
Et qu'est-ce qui se passe? C'est mécanique, c'est spontané.
Parce qu'on dit justement qu'on doit prendre un bic et que c'est très bon
c'est
d'écrire
vrai, ouais.
pour se libérer. Et je ne suis pas là-dedans à ce moment-là, puisque je change d'endroit tout le temps, je ne suis pas vraiment fixe, et donc je prends mon smartphone et j'écris quelque chose que, évidemment, je ne sais pas envoyer, puisque je ne sais pas quelle est l'adresse de je ne sais pas où. Et donc, je le laisse dans mon brouillon, et j'en fais une, j'en fais deux, j'en fais trois, et puis je les mets les unes à la suite des autres, et je me dis, ça fait quand même déjà un gros paquet, et puis un anniversaire, un deuxième anniversaire, et puis ça passe, le temps passe, et c'est horrible de se rendre compte que le temps passe, et qu'on se répète finalement. Un Noël, un deuxième Noël, c'est terrible. Franchement, c'est terrible.
On l'entend, on le ressent, on entend presque ta voix dans ces lettres. Hein, enfin, peut-être parce que j'ai déjà entendu réellement ta voix, mais on entend ce message-là. Et c'est vrai qu'on voit ces événements familiaux, ces événements festifs, ces dates d'anniversaire. Et au début, on est dans la lecture et on sent l'urgence de dire l'amour. Et c'est vrai qu'on suit ces lettres et nous-mêmes, en tant que lecteurs, on sent que ouf, c'est en train de s'accumuler, de... C'est et ça. Là, il se passe un effet pour le lecteur qui est « ça continue ».
Oui, ça, c'est, ça, c'est ça. Et ça, c'est dur aussi de mettre des mots sur « on a fêté Noël sans vous ».
Ouais.
Vos petites cousines étaient là et c'était magnifique pour elles et c'était horrible pour moi, mais beau quand même et j'ai passé un bon moment. C'est très dur et cette ambivalence-là, moi, j'avais vraiment besoin de la partager avec eux parce qu'il y a une sorte de culpabilité de « je me réjouissais quand même de voir Lucie, Léa, Élise et Inès, Merlin, enfin, tous mes petits neveux et nièces que j'aime, mais vous n'étiez pas là.
Ouais. »
Et par respect pour vous, je dois le dire. Et puis, une année passe, et puis l'année d'après, on ne ressent pas la même chose.
C'est encore une chose.
Oui, et là, c'est... Ouais. Oui.
Et quand tu l'écris, j'entends que tu l'écris a priori, si j'ai compris, d'abord pour eux, pour qu'ils reçoivent ce message-là. Et toi, quand tu fais cet acte de le déposer, j'imagine que c'est dans ton cœur ou dans ton esprit, dans ta tête, ces idées, ces sensations qui tournent. Quand tu le déposes par email, si c'est ton smartphone... Moi, j'écris aussi avec un smartphone. Et en fait, pour moi, l'effet aussi, parfois... intense ou efficace qu'un carnet. Donc je peux totalement partager ce côté tapoter. Mais si je reviens à Madeleine, toi quand tu déposes ça et que c'était génial, mais vous n'étiez pas là, quand tu peux exprimer ces ambivalences, est-ce que tu as un souvenir de ce qui peut se passer en toi à ce moment-là?
Mais j'ai l'impression que j'y vais à la base, au départ, j'y vais quand je suis excessivement triste et que je n'arrive pas à communiquer ma peine à qui que ce soit.
Ouais.
Et que même chez la psychologue, ça ne passe pas autant. Je me dis, j'ai vraiment besoin de dire avec mes mots à quel point c'est une bataille en moi entre le bonheur et le malheur intense.
Ouais.
Et donc, dès le départ, c'est vraiment un soulagement. Je finis d'écrire et je me dis, je l'ai dit.
C'est ça.
Je vous aime à la folie, je vous aime toujours, je vous aimerai toujours, mais la vie continue. Et c'est dur, en fait, de dire ça, la vie continue. Et puis ça devient de plus en plus facile de le dire, la vie continue et la vie est belle.
C'est peut-être cet exercice que tu continues, que tu parce qu'on parle de répétition tout à l'heure.
Oui, c'est ça.
Tu disais,
c'est
parfois il y a des répétitions, c'est bien, c'est pas bien, on ne sait pas. En tout cas, c'est peut-être cet effet de répétition qui fait qu'il y a à chaque fois un petit truc qui peut peut-être se lâcher, se libérer.
Mais en tout cas, c'est l'idée. C'est vraiment... C'est vraiment à la base, je ne le réécrivais pas en me disant « je vais publier ». Donc, j'aurais pu écrire 1000 fois la même chose, ça ne changeait rien pour moi. Et c'est en relisant tout doucement que je vois que tel mois, j'étais beaucoup plus dans l'angoisse, tel mois, j'étais un peu plus légère. Et puis, il y a des retours en arrière, parce que le deuil, c'est quand même quelque chose d'excessivement compliqué qui ne se termine jamais. Et je sens une évolution dans mon écriture, enfin dans ce que je pense, dans ce que je dis, dans ce que je ressens. Et le fait de me relire et de continuer à écrire avec ce que je sais que j'ai déjà écrit, ben, ça me fait vraiment évoluer. Toute seule, je me dis, aujourd'hui, je ne pense plus exactement comme ça, je vais le dire.
Oui, on le reçoit, on le reçoit vraiment. Tu nous offres... Alors, on parle des lettres, vraiment pour expliquer l'histoire, c'est déjà une partie dans l'histoire.
C'est ça, oui.
C'est l'histoire dans l'histoire. C'est un peu le petit cadeau que tu fais au lecteur. Cadeau précieux, sensible et précieux que tu fais au lecteur. Mais on sent dans ce moment-là de l'histoire que, oui, il y a ce côté changeant, évolutif. Il y a toute une palette d'émotions, il y a toute une palette de colère, de désespoir, d'amour, d'espoir. On reçoit tout, quoi. C'est un petit cocktail détonnant.
Et j'imagine, après, moi, j'ai perdu mes enfants, mais d'autres personnes perdent d'autres membres proches ou moins proches, que le deuil, c'est ça.
Probablement.
C'est énormément de sentiments mélangés. Et je me suis dit que moi, j'allais partager les miens, mais qu'ils ne sont peut-être pas les mêmes pour tout le monde. Ou peut-être que si, et que ça peut aider quelqu'un à se dire, ben oui, je peux quand même sourire et j'ai le droit d'éclater de rire. Et...
Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas vécu beaucoup de deuil dans ma vie. Mais je me rends compte que c'est probablement ce que j'ai reçu de ton histoire. C'est que c'est OK de vouloir encore vivre. Ou parfois de se questionner si j'ai encore envie de vivre. Mm-hmm. Dans la même, dans le même espace-temps, quoi, tu vois. Et en fait, de se dire, mais oui, on peut encore avoir des moments où on est au travail. On y va. Tu parlais de la petite photo de tes petits garçons qui étaient collés sur l'ordinateur, c'est ça. Et en fait, d'être au travail et en fait de mentalement pas y être non plus, parce que c'est pendant 3 minutes et puis on voit les enfants. Et,
c'est ça.
Et tout, c'est vraiment le mot que tu as amené, ambivalence perpétuelle. Et je me dis, c'est propre à l'humain, donc finalement.
Oui, c'est se donner le droit de. Oui, c'est ça. Moi, je me donne le droit de faire comme je peux.
Ouais, mais déjà, chapeau. Quoi.
Avec parfois que ça va très très bien et c'est. Presque étonnant, et puis d'autres fois où ça ne va pas, et j'ai le droit aussi parce que on a vécu ce qu'on a vécu et chacun.
Ouais. Je trouve ça super parce que tu pars de j'écris dans le brouillon, puis j'envoie mon papa, puis une sœur ou à d'autres membres de la famille, et puis entre temps, il y a un livre, un objet qui est édité, qui a été édité, qui a été sélectionné dans une jeune maison d'édition, qui est diffusé, qui arrive dans les mains des gens, qui est devenu un roman. C'est quand même dingue. Quand tu te retournes,
oui,
et tu dis, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu passes de « je pars de cette histoire qui est personnelle et qui n'est pas une histoire, c'est adressé à moi, à ma famille, à mes enfants, à un moment donné, peut-être que je vais proposer ça à quelqu'un. »
Mais donc,
est-ce que c'était que les lettres ou il y avait aussi autre chose?
Donc d'abord, j'envoie les lettres à ma famille proche. Je vois l'effet intense que ça peut produire et je me dis en fait ça me libère et ça me fait vraiment du bien leur retour et il y a tellement de fois leur petit prénom là-dedans que je me dis c'est tellement magnifique d'imaginer que je perpétue leur mémoire et que je ne parle que d'amour pour eux là-dedans, que pourquoi m'arrêter à ma famille même si elle est déjà grande.
elle a l'air grande, oui.
Et je me dis que je vais partager juste des lettres qu'une maman en deuil envoie à ses enfants, ça ne me convient pas et donc va savoir pourquoi, je me dis, je vais l'englober dans une histoire plus douce, mais je ne peux pas vraiment expliquer comment il y a eu ce déclic, ça, il est venu.
Naturellement, peut-être.
Ouais. Peut-être que j'ai été aspirée par une force extérieure. Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, on m'a déjà posé la question, je ne sais pas.
Mais il y a des choses qui se font sans réfléchir. Hein. Et j'ai l'impression que ces choses qui se font sans réfléchir, souvent, c'est les bonnes tout de suite. Quoi. C'est comme ça que ça devait se faire.
C'est que ça devait, oui.
Bon, moi, je sais que je dis des choses comme ça parfois, j'étonne les gens, mais je pense sincèrement. Et quand j'entends. Voilà ton parcours ici, je me dis que c'est peut-être comme ça, sans réfléchir, le mental qui n'est pas venu entraver cet élan de...
C'est ça, et puis fait, englober les lettres dans une histoire qui était fiction, ça n'engageait à nouveau que moi à cet instant-là.
Ouais.
Ça ne voulait pas encore dire que je le publiais, ça voulait juste dire que j'allais faire une histoire complète de A à Z avec les lettres au milieu.
Donc ça vient de toi, c'est une question que je me posais. Est-ce que ça, du coup, c'est ce signal qui est venu en toi de « je ne fais pas tel quel ». C'est pas ton éditrice qui a dit « il faut qu'on change », c'est vraiment venu profondément.
Moi, je l'ai présenté avec, englobé dedans, oui.
Et donc, à un moment donné, il y a une deuxième étape dans cette forme d'écriture qui est d'abord une écriture épistolaire, adressée, peut-être probablement thérapeutique aussi.
Oui, sans aucun doute.
Lâchée, cathartique. Comment ça évolue le passage à maintenant je dois inventer des choses? Parce qu'on peut peut-être le dire aux auditeurs, aux auditrices, il y a toute une histoire inventée avec des choses qui sont... Oh, parfois, on pense à toi, on retrouve des choses de Madeleine.
Oui, certainement, ceux qui me connaissent, ça.
Voilà, un petit peu ou beaucoup, mais... T'as inventé tout un univers, quoi. Alors, raconte-nous un petit peu. Comment ça, c'est une autre forme d'écriture qui commence.
Oui, alors que je ne suis pas infirmière du tout, même si j'ai un frère et une sœur qui le sont, je n'y connais absolument rien du tout à la maladie d'Alzheimer, puisque c'est ce dont ma vie est atteinte. J'essaye quelque chose et je me dis, je vais faire quelque chose d'aussi léger que les lettres peuvent être douloureuses. Et j'essaye. Et au fil des soirées d'écriture, je me dis, et plus ce sera léger... rigolo, marrant et doux, Et plus ça contrastera avec la douleur dans les lettres, et donc je me suis lancée dans quelque chose de, j'espère, léger.
Oui, oui, on ressent beaucoup d'humour.
Et donc, voilà, je voulais à nouveau un message d'amour, même s'il y en avait déjà beaucoup dans les lettres, puisque c'est vraiment ce qui, à mon sens, vaut la vie.
Oui, oui, oui.
Donc voilà, j'ai fait amour, douceur, légèreté, c'était l'idée.
C'est des mots qu'on reçoit, on les entend, on les sent déjà nous envelopper. C'est marrant parce que je sens que c'est aussi une forme d'intuition très vive qui est arrivée, de contraster nettement aussi avec la douleur, voire l'horreur de ce que les lettres évoquent à certains moments.
Mais c'est parce qu'on en parle et qu'on met des mots aujourd'hui, mais sinon vraiment, si on prend du recul, c'est ma vie, c'est vraiment ma vie. C'est que j'ai été excessivement bien entourée par Julian justement et puis par ma famille. Ça m'a permis de me lever et de continuer à vivre. Je ne me suis pas posé la question de est-ce que je veux en finir avec la vie, ça n'a même pas été évoqué dans ma tête, c'était pas quelque chose... Je veux rendre mes enfants fiers et je veux qu'ils sachent que j'aime toujours tati, tonton, pape, j'aime Mima, tous les autres, je ne vais pas les citer tous, mais j'aime tout le monde, je les aime et on a continué à vivre sans eux avec cette douleur immense, mais on n'a pas arrêté parce que ce n'est pas ce qu'ils auraient voulu, je pense vraiment.
C'est ça qui t'a motivé à chaque fois de dire il y a quelque chose de ce qu'ils souhaiteraient.
Mais parce que je ne sais pas si quelqu'un peut me donner la réponse, je suis vraiment ouverte à ça, mais on ne sait pas où se trouvent toutes ces personnes qui meurent. Et donc, où qu'ils soient, à un moment, on se dit, et si ils m'entendaient, et s'ils me voyaient, et s'ils étaient à côté de moi, en moi, sur moi. Moi, je suis toujours leur maman, je le serai jusqu'à mon dernier souffle. Et donc, je ne vais ni arrêter de vivre, je ne suis pas sûre de retrouver le bon endroit, ni faire comme s'il n'avait pas existé. Donc il faut arriver à trouver une solution pour cohabiter avec la mort.
Cohabiter, c'est ça, hein. C'est un mot intéressant, je trouve. Et alors, justement, moi, j'ai découvert cette partie vraiment fictive, narrative, et je dis, là, je découvre Madeleine Bosley, écrivaine, quoi. Tu nous fais ce qu'on trouve dans des romans de littérature feel good, vraiment super bien écrit, là, tu vois, la bonne littérature.
Je n'irai pas jusque-là, mais c'est mignon.
Non, mais tu vois, parce qu'on retrouve un peu... Allez, le décor, c'est une maison de repos, voilà. Maddy est infirmière et... Salomé est infirmière et Maddy arrive en maison de repos. C'est une dame âgée. Et à partir de là, il y a tout un petit vivier de personnages, de personnalités, de petites histoires, de petites aventures, de l'innarrative, même un peu plus sérieuse aussi, qui se développe autour. Donc, tu crées tout un monde, quoi. Et qu'est-ce que ça te fait de te dire « je crée un peu tout ça », quoi.
Je trouve que c'est excessivement excitant, et de le relire maintenant, des mois après sa sortie, je me dis « j'ai vraiment fait ça, j'ai créé ce monde-là ». Après, ma petite sœur Clémence et mon grand frère Jean sont infirmiers et ils ont eu énormément d'anecdotes à me raconter sur leur... Donc, j'avais des idées.
On sent que c'est documenté. C'est vrai que tu évoques maintenant que dans ta famille, il y a du personnel infirmier ou quoi. Et je me dis, ça ne m'étonne pas parce que je me dis, bon, te connaissant un petit peu, je me dis, mais Madeleine, elle n'est pas infirmière, elle n'est pas très en maison de repos. Je dis, comment ? Et on sent cette connaissance de comment prendre soin de quelqu'un.
Et ça me fait plaisir.
Ce travail entre collègues,
tu vois. Oui, c'est ça. Et ça veut dire que je les ai bien écoutés quand ils m'ont raconté, parce qu'ils n'ont pas eu besoin de me re-raconter. Et je me dis, on se dit qu'il y a une partie de moi dans Salomé, c'est certain.
Oui, franchement, on la retrouve.
Mais il y a aussi une partie de mon frère Jean et de ma sœur Clémence qui m'ont transmis cet amour qu'ils ont de leurs patients, parce que c'est vraiment ça. On sent qu'il y a énormément de respect et d'amour, et c'est vraiment ce que j'ai voulu rendre aussi, parce que c'est pas partout comme ça. Mais ça existe vraiment, des gens qui aiment leurs patients.
Mais c'est ça que tu touches, que ce soit dans le fictif qui vient a priori de rien et dans les lettres évidemment c'est du vrai, et c'est du vrai ultra tangible, perceptible, mais dans le fictif tu mets, j'en suis certaine, du vrai, de la vraie vie, des choses qui existent, quoi. Et du coup ça cohabite très bien, je reprends ton mot, entre les lettres qui disent des choses essentielles, douloureuses aussi, avec cette histoire. Le truc a été finement agencé, structuré pour qu'on puisse tout recevoir. Franchement, bravo, quoi.
Je prends le compliment et je te remercie, mais tout ça, c'est pas construit comme une autrice aguerrie l'aurait pu le faire. C'est venu de façon très intuitive, et tant mieux si ça peut plaire et si ça peut sembler bien construit. Mais c'est pas vraiment fait exprès. Ouais. Après, il y a un travail de mes éditrices.
Hein, oui, bien sûr. C'est bien de le mentionner, parce que moi, je le dis souvent, je te l'ai déjà dit, on n'écrit pas seul, et que des accompagnants, des éditeurs, des assistants d'édition, n'importe qui est, même ton père qui relit, ces gens-là sont là pour t'aider à ce que ça ressemble au mieux à une belle histoire, quoi.
C'est ça, le but c'était vraiment de sortir une pépite si on la sortait, et donc Anna et Axel, mais pour la partie correction, Anna beaucoup plus, mmh. Anna De Witz des éditions Pardage. Je cite leur nom pour faire la
pub. Oui, bah, puis elles font un travail super, donc on peut les citer.
A fait un travail extraordinaire, a pris un temps fou pour rendre chaque chapitre cohérent et beau. Oui. Vraiment, alors je ne dis pas qu'on a changé du noir au blanc, mais elle a quand même vraiment rendu le tout cohérent, ce qui n'était pas forcément le cas à 100% avant, il ne faut pas non plus s'en cacher. C'est pour ça que oui, c'est important que tu le dises aussi, écrire seul, c'est dangereux, je trouve. Mm-hmm. Moi, il y aurait eu pas mal d'anachronisme et d'incohérence si j'avais laissé ça toute seule et que j'avais fait une auto-édition, par exemple.
Et puis, la pépite que tu as envie d'offrir au monde et, à mon avis, offrir à tes enfants, in fine... Évidemment qu'il faut qu'elle soit nickel, quoi, qu'elle soit quelque chose qui se rapproche le plus de du qualitatif, du beau.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, moi, je suis très, très fière de ça, de le tenir dans ma main, ce livre. Et j'espère que c'est le cas de tous les gens qui sortent un livre. Et si on laisse, qu'on a des regrets, c'est dommage.
C'est dommage, oui. Mais toi, tu es contente à ce stade-ci de voir que ton livre a été édité. Il a été réimprimé. Encore, il est à nouveau dans les librairies, etc. Tu vois cette vie entre juin et là, on est au mois de décembre. Tu vois ce truc qui vit. Qu'est-ce qui se passe alors maintenant?
C'est une question intéressante. Après, ma vie n'a pas changé, mais pas du tout. Parce que je sais que les gens... l'affaire avait été très médiatisée. Et donc, les gens savent que je suis une mère désenfantée qui travaille quand même et qui vit malgré tout. Et je n'ai pas eu besoin du livre pour que les gens sachent ça.
Oui.
Mais ça m'a aidé encore plus à assumer qui je suis et qui je veux être et qui j'ai le droit d'être.
Qui j'ai le droit d'être, voilà. Ça c'est...
C'est vraiment c'est exactement ça que je voulais faire.
C'était... À travers Maddy,
c'est ça.
Qui est donc la personne âgée, et que Maddy maintenant a été découverte, entendue, peut-être comprise...
C'est ça.
Par des lecteurs, c'est ça en fait.
C'est ça, c'est l'idée, c'est comprenez mon message, essayez de décoder ce que j'ai essayé de... Ben c'est assez limpide, hein. C'est pas non plus
c'est ça que je dis quand je dis feel good, pour moi c'est juste, c'est très bien, c'est-à-dire je pense à Ensemble, c'est tout, tu vois, d'Anna Gavalda, il y a aussi ce petit monde, une dame âgée, un cuisinier, tous des personnages, il y a des histoires, des lignes qui sont simples, mais dans cette simplicité, toute cette humanité, tout cet amour qui peut se déposer, et il y a quand même, il y a un mystère, enfin je veux dire... On peut se douter, parce que oui, ça a été médiatisé, l'affaire, l'histoire avec tes enfants et ton ex-conjoint, etc. Mais je veux dire, à un moment donné, nous, on est dans l'histoire. On tourne les pages, on veut savoir.
Oui, c'est ça.
Et pourquoi lui, c'est pas son fils ? Il y a un personnage masculin qui intervient, on sait pas... Il y a un peu de mystère, donc on est dans du narratif aussi.
Oui, c'est ça. L'idée et la complexité de ce livre, c'était de se poser la question avec mes éditrices de est-ce qu'on fait le buzz en disant c'est Madeleine Bosley, la maman de Jules et Timothée qui a écrit un livre, ou est-ce qu'on lance Certaines étoiles brillent plus fort sans en parler, et puis on voit. Mais forcément, si on veut vendre, il fallait un tout petit peu rappeler l'histoire, ce qu'elles ont fait avec mon accord, évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment de commencer le livre à la page 1 et de le terminer après avoir... Il ne fallait pas, normalement, commencer par les lettres, parce qu'alors, on cassait ce que j'avais essayé de faire en englobant.
Ouais.
Ce qui... Et c'est pas... Je ne veux pas jeter la pierre à ceux qui l'ont fait, parce que je peux comprendre les gens qui...
Qui ont besoin de savoir.
Qui ont besoin de partager la douleur et qui savent qu'il faut défaire le petit nœud, puisqu'il y a un petit nœud autour des lettres. Mais celui qui commence à la page 1 est pris dans une autre histoire et se demande, mais enfin, Maddy, c'est son prénom en raccourci, est-ce que c'est elle, Salomé, qui est-ce, Merlin, mais enfin... Et donc, on se pose des questions, et oui, il y a une sorte de...
Tout de suite, Maddy, évidemment, Maddy, cette personne âgée qui rentre dans le home, on se dit, mais ça ne peut être que Madeleine, ou pas, mais elle est âgée. Enfin, alors tout de suite, oui, on est dans une curiosité et en même temps dans une exploration. Alors, moi, je trouve ça très intéressant et je l'ai dit, je trouve que c'est une belle manière d'avoir envisagé comment je délivre mon message très personnel qu'on trouve au final dans les lettres, mais qui arrive, je ne sais pas, à la 100e page, 150e page. Donc, on a toute une histoire qui se découle avant. Je trouve que c'était la meilleure façon, à mon avis, de pouvoir amener ça au lecteur, dans ce que tu dis, ce contraste légèreté, amour, et puis douleur. Et en même temps, de pas... certains l'ont fait, apparemment, et comme tu dis, c'est probablement très juste, mais de pas amener d'un bloc, de manière brute, comme ça... cette vérité.
Parce qu'alors, c'était du sensationnalisme. C'était à l'état pur. Est-ce qu'elle a parlé des détails croustillants? Les gens sont déçus, du coup, parce que c'est pas ça.
Ouais.
Mais oui, et je trouve que c'était doux d'amener ma façon de penser, de voir la vie et mon espoir d'un jour pouvoir oublier qu'ils sont morts, même si je ne veux oublier aucun des instants d'amour que j'ai vécu avec eux. Mm-hmm. Je trouve que c'était la façon la plus facile de l'amener. C'est venu comme ça, je ne saurais pas, mais ça me semble tellement facile de se dire une vieille dame, on la croit et on se dit mais oui, évidemment, ce serait bien pour elle.
Mais c'est marrant parce que du coup, il y a du travail dans le passé, mais avec Maddy, grâce à Maddy, il y a un travail un peu de prospective.
C'est ça, oui,
je sais
c'est
pas
ça.
Comment tu l'as vécu, c'est un peu toi, quoi. Donc,
ça a effrayé. Ça a effrayé mes frères et sœurs, évidemment. Ouais, et mes parents d'imaginer, tu vas vraiment aller vivre là-bas.
Et
tu
sénile,
vas vraiment être sénile. Ouais, et tu sais que nous, si tu étais sénile, on continuerait malgré tout à venir te voir. Et oui, évidemment, ça reste une fiction.
Bien sûr, oui.
Parce que c'était trop difficile d'amener tout le temps. Et il ne fallait pas que ce soit trop réel. C'était le but, c'est que ce soit une fiction. Ouais.
Et du coup, quelle liberté ou quelle aisance ou quel confort ça t'a amené cette fiction, auto-fiction
Mais ça donne une liberté folle, évidemment. Mm-hmm. On peut faire ce qu'on veut et on peut dire des choses, les enjoliver si on les trouve un petit peu plus laides dans la réalité. Ou plutôt se dire ça, je le mets parce que c'est un message que je veux faire passer. Il y a peu de messages que je veux faire passer. Il y a des gens qui ont essayé de se reconnaître et en fait, ça ne sert à rien d'essayer parce qu'il n'y en a pas vraiment. Mais c'est vrai que j'ai sans doute été inspirée par la réalité.
Toujours.
Mais oui, c'est une liberté folle. C'est gay, justement, je trouve, de pouvoir raconter, d'être le personnage, de savoir que les gens vont se dire que je suis le personnage, mais quelle est la part de vérité dans mon histoire, quelle est la part de fiction.
Oui.
Ça restera un mystère, je ne dirai rien.
C'est trop bien. Et en fait, je me rends compte que oui, tu as vécu une tragédie. Tu as vécu l'après qui t'a connecté, qui t'a gardé dans un espace où tes enfants étaient toujours avec toi, si je comprends bien. Mais en fait, il s'est passé quelque chose, peut-être malgré toi, mais tu es devenue créatrice, quoi. Tu as créé, tu crées des vies, tu crées des histoires, tu dis que c'est quand même assez kiffant. Donc, est-ce que tu te découvres aussi dans cette nouvelle étiquette?
J'ai adoré, après me dire que je vais continuer et en refaire, je ne sais pas, mais j'ai adoré faire ça, oui. Mm-hmm. De savoir en plus que c'était pour englober quelque chose qui devait absolument sortir de moi, de chez moi. Il fallait que ce soit tellement beau et fort que oui, je crois que je me suis sentie très possédée et je me disais oui, je fais quelque chose de... Ça doit être magique, ça doit être vraiment beau.
Ouais,
après, est-ce que c'est tellement kiffant que je vais le refaire? J'ai envie, mais je n'ai plus une si belle histoire à raconter là tout de suite, ça viendra peut-être.
Écoute, t'as encore une longue vie devant toi probablement et je te le souhaite et de me dire il y aura peut-être d'autres espaces, d'autres choses à raconter au fur et à mesure de ton existence. En tout cas, ce qui est intéressant, moi de l'extérieur, comme je vois ça, je me dis il y a quand même de la création. Et si je t'interview dans ce podcast, c'est que ici on kiffe la création et que quand on en parle, tout de suite je vois que tu t'animes et il y a une petite machine magique, comme tu dis, donc c'est beau. Et puis comme tu dis, ça a créé un écrin. Pour moi, ça a créé un écrin autour de quelque chose qui est toujours là depuis le début, changé.
Oui, tu dis qu'ils m'ont accompagné, mais moi je veux qu'ils soient là tout le reste de ma vie, ils m'accompagnent. Ouais.
Ils sont là, on le sent.
Oui, je les perpétue. Et c'est Baptiste Beaulieu qui dit « Je vous continue ». Je trouve ça tellement magnifique. Je ne sais plus le début de la phrase, mais c'est « Je vous continue ».
Oui,
je voudrais les continuer.
Ils sont déjà là. Ils vivent encore une autre vie.
Je m'étais imaginé écrire la vie s'ils avaient survécu. Mais c'est tellement difficile, ça, d'imaginer un enfant qui n'est plus. Mm-hmm. On peut le faire pendant un mois ou deux, l'année d'après. J'ai fait ça, d'ailleurs, dans les lettres. Qu'est-ce qu'ils auraient voulu recevoir à leur anniversaire l'année d'après? Comment ils seraient? Est-ce que le petit caractère de Timo se serait affirmé? Est-ce que Jules serait toujours aussi intelligent? Ou est-ce que c'était juste l'apprentissage de la lecture? On ne sait pas. Ouais. Alors, un an, deux ans, on le fait. Puis là, maintenant, après 4 ans, Jules, qui aurait 11 ans, il aurait dû passer son CEB en juin. Ben je ne sais pas du tout quel genre d'enfant ce serait.
T'as plus de prise pour t'appuyer là-dessus.
Ça aussi, c'est quelque chose de très, très, très difficile. Alors, soit on l'invente, soit on s'arrête et on se dit...
C'est ça.
Voilà.
T'as trouvé la parade, hein. T'as trouvé le cadre, le terrain de jeu, j'ai l'impression, dans lequel une belle histoire avec ce message fondamental que tu voulais apporter a pu se déposer. Je ne sais pas si tu es... satisfaite,
ça m'a aidée, fière. Je suis à la fois satisfaite, à la fois heureuse et fière parce que ça m'a vraiment aidée et j'ai vraiment essayé de me convaincre que la dernière lettre où j'explique, je ne vais pas me spoiler.
Oui, on va regarder un petit peu.
Voilà. Mais à la fin des lettres, c'est quand même assez positif.
Oui.
Et au moment où je mets le point final sur ces lettres, je me dis, je ne suis pas forcément convaincue à 100% de ce que j'écris. Mais je sais que je vais y arriver et je peux dire aujourd'hui j'y suis arrivée.
C'est comme si tu avais montré la direction. Et que...
Oui, je me donne la direction moi-même.
C'est ça.
Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Je me donne le droit d'arriver à cette conclusion-là et j'y suis.
Je trouve ça, waouh, je trouve ça assez badass, quoi, parce que tu as vécu des choses, tu en traverses encore comme n'importe quelle femme, alors avec sa dimension, son histoire, mais si je me donne le droit et de reprendre en main... ton histoire, les rênes de ton histoire avec les canaux que tu choisis, c'est quand même super fort, quoi. C'est super puissant. Et,
Mais par amour à nouveau pour eux, pas par vengeance, pas pour montrer, prouver quoi que ce soit, c'est vraiment parce que je les aime de tout mon cœur et que je veux être une maman dont ils seraient fiers.
C'est ça.
Qu'ils sont fiers peut-être, on ne sait pas.
Oh bah écoute, je ne sais pas
c'est
si tu peux
me permettre de dire. C'est ce qui me
permettrait
vraiment, c'est de me dire ils sont fiers.
Mais à mon avis, probablement, oui, c'est sûr. Et du coup, le jour où il sort, à un donné, il va arriver en librairie. Les premiers retours, comment ça se passe pour toi ?
C'est assez angoissant, évidemment, hein, puisque en plus c'est médiatisé et qu'on fait un gros flashback sur l'histoire et donc la tête de l'assassin apparaît dans les médias. C'est très dur, ça.
Ouais.
Même si, et ça je tiens quand même à le dire, les médias ont été hyper respectueux, ce qui n'ont pas forcément été tout le long.
Oui, traitement médiatique, j'ai l'impression qu'il a été très différent au début de l'histoire.
Oui, il y avait eu des fuites au tout début. Donc j'ai appris la façon dont ils étaient morts dans la presse avant même que la police m'appelle. Enfin, c'était très douloureux. Je m'étais très fort disputée avec une des journalistes qui a voulu, je pense... donner le change et faire quelque chose de magnifique par la suite. Et donc, je me suis sentie excessivement respectée cette fois, vraiment fort. Et je trouvais que c'était vraiment beau ce qu'elle écrivait.
Ça amène des résolutions dans la vraie vie, en fait, alors, cette histoire. C'est marrant.
Oui,
le livre amène des formes de... pas de conclusion, mais de résolution de certaines choses.
Oui, je trouvais que ça faisait un peu la boucle est bouclée. C'est mignon. Et finalement, ce qu'il en sort, c'est l'amour. Et c'est pas que la tragédie. Et... Même si les journalistes s'y mettent, je me dis, c'est magnifique. Et puis, ce genre de livre... Il est sorti, j'avais une petite appréhension puisque ma vie éclatait au grand jour et que je savais que je devais assumer, j'avais choisi. Mais je me doutais bien, et ça s'est confirmé, que les gens seraient bienveillants. Ils l'ont été.
Ah, t'avais une foi.
Je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire, à part dire que le style n'est pas bon, mais ça j'assumais complètement.
Tu t'as été accompagnée, de toute façon.
Oui, je savais.
Voilà, c'est pareil.
Donc je savais que c'était pas complètement naze de toute façon. Et je savais que l'histoire était jolie. Le style, je me dis, ceux qui veulent juger peuvent juger, mais personne n'a osé venir me dire en face que le style n'était pas bon.
Ouais.
Et je n'ai eu que des retours doux et bienveillants, vraiment. Que des gens qui trouvent ça fort, évidemment, parce que c'est vraiment le mot, c'est fort, c'est puissant quand même.
J'imagine, pour toi, pour ceux qui le reçoivent. Personnellement, je l'ai lu, ça m'a... J'ai inauguré le podcast comme ça. Je crois que c'est le moment le plus challenging pour moi de mon parcours en tant que coach littéraire, qui délivre, etc. C'est... Challenging, défi, c'est bien, mais de me dire, est-ce que je suis capable d'encaisser cette histoire-là ? Est-ce que je suis capable de la lire jusqu'au bout ? Est-ce que je suis capable de recevoir Madeleine, d'en parler avec elle ? Et en fait, tout va bien, parce que on ressent l'amour, on ressent la lumière, on ressent aussi qui tu es à l'instant où tu l'as écrit. Je pense qu'on ressent aussi qui tu es maintenant, que c'est écrit, que c'est publié. Donc, il y a une sorte de message autour de toi qui s'envoie, donc tout va bien, quoi.
Oui. Tout va bien et à la fois tout va mal, c'est ça.
Voilà, vraiment,
c'est vraiment
c'est
ça qui est vraiment... Ouais. J'adore cette ambivalence. Moi, je trouve que c'est magnifique d'arriver à se dire « Je suis mortellement triste de ne pas les avoir à côté de moi. Je voudrais qu'ils soient assis sur la chaise là, disputés avec un joueur au Ninjago qu'ils ont reçu à Saint-Nicolas ce matin. » Et à la fois, je les aime très fort. Et il y a peu de mamans qui peuvent prendre un micro et dire « J'aime mes enfants à la folie aujourd'hui. » Toi, tu peux le faire parce que tu es derrière le micro, mais sinon les mamans vivent leur vie avec leurs enfants. Et moi, je peux crier au monde entier « J'aime Gilles et j'aime Timothée à la folie. » Moi, je trouve que c'est un droit qu'on me donne qui est magnifique.
Évidemment, c'est un porte-voix, mais que tu as été cherché, tu t'en es saisi. C'est ça aussi que je trouve dans cette démarche qui est d'une résilience. Le mot, j'ai toujours résilience parce qu'on l'utilise, on l'écule. Les mots, je les adore et parfois on les abîme un peu, mais là j'ai envie de le sortir quand même parce qu'il y a quelque chose qui vient de toi, d'une démarche qui vient, un élan qui vient en toi, de toi. Du coup, moi je vais revenir un peu à l'ADN ici du mot qui délivre. C'est vraiment l'écriture thérapeutique ou l'écriture qui peut faire du bien à d'autres, qui lisent aussi. La bibliothérapie, je lis, ça me fait du bien. Est-ce que tu as conscientisé maintenant qu'il a été lu par plusieurs personnes qu'il a été ressenti. C'est vraiment un livre qu'on le ressent fort, dans son corps, dans son ventre, dans tout, ses poumons, enfin on ressent tout. Est-ce que tu as eu des retours? Est-ce que tu as, ou alors conscientisé, le côté bibliothérapeutique, le « j'ai fait du bien à d'autres personnes autour de moi »
J'entends ce que tu dis, et c'était l'idée, et j'aurais voulu. C'était pas l'idée, mais une fois qu'il a été sorti, je me suis dit, et qui c'est d'autres mamans qui n'ont peut-être pas vécu exactement la même chose, mais qui ont perdu un enfant, quelle que soit la raison ou le moment. Qui sait peut-être que mon message d'espoir va les aider. Ça m'a un peu portée aussi, je me suis dit, oh, j'espère vraiment. Mais les retours que j'ai eus, c'était plus... Je partage ta peine.
C'est ça.
C'est beau, c'est magnifique, bravo. C'était plus je partage ta peine.
C'est ça. Oui, oui, c'est vrai.
J'ai pas eu l'impression d'être une thérapeute guérisseuse, même si je trouve que c'est magnifique comme principe. Je voudrais, mais...
Moi, je pense que tu l'es, hein, mais je t'ai déjà dit tout à l'heure.
Mais j'ai pas eu beaucoup de retours de maman. Peut-être que ça viendra. Hein. Ça doit être aussi dur de prendre sa plume et de se dire... voilà, tu l'as écrit comme ça, Madeleine. Moi, je le ressens comme ça et c'est peut-être pas la même chose.
Oui, entre je le reçois dans mon intime, dans mon jardin secret, etc. Mais pour une petite anecdote, je connais une plume au sein du Moquillet Livre qui a été dans une démarche active, très engagée vis-à-vis de toi, qui a tout de suite senti cet appel de ton texte et qui est venue vers toi en parler, etc.
Petit clin d'œil à cette plume que j'apprécie beaucoup.
Oui, je lui laisserai le soin de se manifester si elle le souhaite, mais franchement, il y a quand même, moi j'étais témoin.
Oui, voilà, par exemple de elle, oui, très fort,
voilà,
oui, bien sûr.
Avec
bien
sûr. Des résonances très fortes. Je trouve ça magnifique. Moi personnellement, je trouve ça sûrement que tu es une guérisseuse parce que, alors que ce n'est pas du tout la même vie, du tout la même histoire, etc. Ce matin, je me réveille et je vois mes enfants encore autrement, tu vois. Et je savoure des petites choses, même des Ninjago qui traînent par terre, tu vois. Ou, personnellement, j'étais dans un roman qui va plutôt explorer les difficultés d'être mère. Des choses qui m'ont chamboulée dans la maternité. Et de me dire, après, de quel droit je peux raconter, me plaindre. Et puis, en fait, je court-circuite parce que je me dis, non, Madeleine, elle a son histoire. J'ai la mienne, d'autres femmes ont la leur. Mais tu m'envoies ce message très personnellement de... Ben maintenant, tu les aimes encore plus, quoi. Tu les savoures encore plus, tu les renifles, tu vois. Donc, je me dis... je pense même pas que ce soit douloureux quand je te le dis vis-à-vis de toi, à ce stade-ci.
Moi, c'est...
Je
moi,
sens que je peux te l'envoyer et que je reçois ce message-là. Donc, pour moi, même si je n'ai pas perdu un enfant, si je n'ai pas du tout de quoi me cramponner à un semblant d'histoire similaire, tu es quand même guérisseuse parce que tu m'aides, moi, à dépasser, à accueillir quelque chose qui n'était pas toujours évident de « Putain, tes enfants, tu... » Même quand ils t'énervent, quoi, tu les aimes, tu les serres, tu vois. Donc, je voulais te l'envoyer. Je voulais te le réserver pour cette discussion.
J'adore
aussi
ce que tu dis, je trouve ça magnifique. Et j'en suis là aujourd'hui et ça me fait hyper plaisir d'entendre ça. Au tout début, évidemment, je n'aurais peut-être pas pu l'entendre du tout. Je me souviens, on peut parler de tout, il n'y a pas de tabou. Je me souviens très bien de moi devant les petits cercueils blancs au funérarium et les gens qui venaient et qui s'effondraient plus que moi qui tenais debout. Et je leur disais, mais c'était une sorte de... Je ne sais pas quel est le mot à utiliser, mais je disais « embrasse tes enfants de ma part ».
C'est ça.
Et c'était, ils venaient de mourir et c'était, je ne le pensais pas de tout mon cœur. Aujourd'hui, je le pense de tout mon cœur. Vraiment, ces petits-enfants, tous, quels qu'ils soient, qui ils soient, ils doivent être embrassés, mais à la folie. Après, mon livre, il n'est pas un enseignement de comment aimer ses enfants.
Pas du tout.
Pas du tout.
Moi, je te dis un message que tu ressens dans comment toi tu l'interprètes et tu le vis, mais en fait, on revient à la base qui est comment tu as vécu les choses. Comment tu as envie de les faire comprendre, les rendre intelligibles de ce que toi t'as vécu personnellement.
C'est ça, après toute maman aime son enfant passionnément, et ça moi je n'en doute pas une seule seconde, mais c'est vrai que moi dans ce livre-là je prends mon opportunité, je la saisis et je dis moi j'aime mes enfants comme ça.
Exactement, mais c'est ça qui fait du bien aussi à tout le monde. Donc tu vois quand on parle de bibliothérapie, je suis vraiment en interprétation, mais je peux vraiment dans la prospective, je peux m'imaginer des résonances que ça a sur d'autres personnes, quelles qu'elles soient, de se dire ça a au moins cet impact-là, tu vois. Et si moi je me permets de te l'envoyer aujourd'hui, je pense pas que j'aurais failli même il y a un an, tu vois. On se serait vu parce que je t'ai contacté au mois de juin,
c'est
puis
vrai,
on a un peu cheminé. Et je pense que le timing était vraiment le bon pour qu'on se voit maintenant parce qu'on a encore des choses, la matière à l'explorer ensemble. Si je t'avais interviewé au mois de juin, je ne me serais vraiment pas sentie de te partager ça dans l'instant, tu vois.
Mais j'étais pas non plus.
Sans que t'as évolué aussi.
Oui, non, oui,
dans
oui,
cette
vraiment,
écriture,
vraiment.
Dans ce travail.
Je suis beaucoup plus à l'aise avec tout ce qui est sorti. Je sais vraiment qui je suis.
Ouais.
Et j'ai pas envie de dire qui j'étais, qui je ne suis plus, parce que je reste la maman de Julie et Timothée. Au tout début, quand je l'ai dit dans la première interview, j'en tremblais de dire, je peux dire au présent que je reste la maman de Julie. Mais là, je regrette presque d'avoir tremblé. Je suis évidemment la maman de Julie et Timothée.
Ah, c'est fou ce chemin.
Oui, c'est un plaisir de dire ça.
Dans l'après. Oui. Ce livre qui, quelque part, ne t'appartient plus totalement non plus, parce que moi, je viens cristalliser mes propres projections, interprétations, d'autres aussi, et de finalement accepter aussi ça, quoi, que chacun se l'approprie un petit peu à sa façon.
Oui, et il interprète comme il veut, évidemment. Et si ça peut faire obtenir à des enfants des bisous et des petits câlins plus serrés, moi, voilà. Plaisir, cadeau.
Mais quelle générosité, franchement. C'est que de l'amour, on l'entend depuis le début. J'ai envie de revenir justement à... je te dis que tu as trouvé l'écrin, tu sens aussi que c'était ce support-là spontanément qui est venu, l'écriture. Donc là, je vais faire un petit retour en arrière et je me dis, mais pourquoi pas la peinture? Pourquoi pas refaire de la musique? Qu'est-ce qui, au départ, fait que dans cet élan que tu ne sais peut-être pas toujours expliquer, c'est écrire? Alors moi, j'ai envie de refaire le lien entre Madeleine que j'ai laissée en réto à Barbeau-sur-Ourthe et Madeleine qui va dégainer son smartphone. Là, comment tu expliques que ce soit venu par les mots ou par l'écriture? C'est quoi cette relation alors avec ça?
C'est vrai que c'est une très très bonne question, puisque je n'étais pas grande lectrice. Je le suis devenue, je me drogue aux livres pour le moment.
Ah ouais.
Mais je pense qu'il n'était pas question d'art à ce moment-là, c'était je veux entrer en communication avec mes enfants. Je ne pouvais pas parler parce que je n'étais pas sûre qu'ils allaient m'entendre.
Ouais.
Et puis j'aurais oublié ce que j'avais dit. En fait, j'avais envie et je me suis dit, il faut que je l'écrive, comme ça moi je pourrais me relire. Il n'était pas question de leur dessiner quelque chose, ils n'allaient pas le voir. Leur jouer de la musique, j'étais pas sûre qu'ils allaient l'entendre non plus. Donc oui, en fait, ça s'est imposé parce que je voulais. Ils ne l'auraient pas lu non plus, tu vas dire. Hein. Mais moi, j'aurais pu le relire, je ne sais pas.
Et... C'est intéressant ce que tu amènes. Il y a quand même quelque chose dans l'écrit. Après, tu vas me dire une peinture aussi, etc. Mais. De prescriptible, quelque chose qui reste, qui... Je sais pas.
Oui, et puis tu l'écris, puis tu peux le lire à voix haute, et alors imaginez que peut-être... Je ne sais pas du tout.
C'est ça, je me posais comme question quand je le lisais, je me dis, tiens, mais qu'est-ce qui fait que Madeleine, c'est par les mots qu'elle a été chercher ça? Parce qu'en plus, on sent l'amour des jeux de mots. J'ai relevé, hein, l'amour des jeux de mots entre les personnages.
Oui.
C'est super drôle, c'est ce qui crée les côtés loufoques, fantaisistes de l'histoire fictive.
Ça, c'est pour amener un petit peu de légèreté.
Ouais, mais j'ai presque reçu que toi aussi, t'aimais ça.
Oui, bien sûr, j'aime ça. Mais après, je ne sais pas si je sais les créer de façon très subtile.
En tout cas, ça nous a fait rire.
Ça vous a fait sourire.
Oui.
Mais l'idée, c'était aussi, puisque si on lit le livre, on le voit, qu'ils me répondent à certains moments.
Oui,
et donc, forcément, mais ça n'est pas venu tout de suite, donc ça ne peut pas être la raison pour laquelle j'ai écrit plutôt que de parler. C'est venu après. Mais le fait qu'ils puissent me répondre, ils n'auraient pas pu le faire oralement, d'aucune autre façon que moi inventer.
Oui, c'est intéressant, c'est super intéressant ce que tu amènes, parce que cette idée de pouvoir, cette possibilité que tu leur offres de te répondre... à travers toi, mais en même temps, c'est toi qui les as mis au monde. Donc, on interprète comme on veut. Hein. Je m'emballe un petit peu, mais en tout cas, qu'ils puissent leur créer cette possibilité de te répondre, il y a quelque chose qui se crée de « je peux aussi créer le message que j'ai envie d'entendre » ou « c'est vraiment celui que tu entends ou... »
C'est pas vraiment celui que j'entends. Parce qu'au moment où j'écris les réponses, je ne suis pas encore vraiment dans l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui.
D'accord.
Par contre, je veux vraiment me convaincre que s'il me parlait, il me dirait ça.
C'est ça.
Et donc ça m'apaise vraiment, même si je trouve ça complètement loufoque quand je me relis, je me dis mais enfin. Et puis quand je décide de le publier, de le proposer, je me dis je vais vraiment assumer que j'ai fait écrire mes enfants alors qu'ils sont morts. Et oui.
Ça passe super bien.
Mais je trouve que ça amène un peu de quelque chose et je me dis vraiment s'ils pouvaient nous parler nos enfants décédés, puisque je ne suis pas la seule maman désenfantée, est-ce qu'ils ne diraient pas des choses comme ça sincèrement? Qu'est-ce qu'ils diraient?
C'est en ton fort intérieur, tu sais en fait.
Oui, parce que je me pose mille questions et je rumine énormément, on en a parlé tout à l'heure, et à la base, je me dis, ils sont en train de pleurer quelque part, ils veulent maman, mais ça ne dure pas 4 ans, ça. C'est impossible, un enfant qui pleure aussi longtemps. Quand on les laisse à la crèche, à l'école, ils pleurent un petit peu, puis ils s'apaisent, ils trouvent, et puis ils sont eux deux, donc je me dis, ils ne sont pas en train de pleurer sans arrêt, c'est impossible, ça je ne veux vraiment, en tout cas, c'est insupportable, je ne veux pas croire ça.
Et puis c'est toi qui décides. Et après on parlait du pouvoir des mots tout à l'heure. Est-ce que les mots ne créent pas une réalité ou
c'est
quoi
ça.
Ou on
c'est
entend
ça.
Quelque
elle
chose d'un peu plus.
On écrit, oui, du spirituel. Moi, en tout cas, je me suis convaincue que c'est tellement plus beau, c'est tellement plus facile de s'endormir en se disant mais bien sûr qu'il me répondrait, qu'il m'aime, évidemment.
Et puis on revient à la base des histoires. On revient à la base. Pourquoi des histoires? Pourquoi on invente des histoires depuis la nuit des temps? Pourquoi on en raconte à nos petits enfants pour qu'ils s'endorment, etc. on leur crée, on se crée un imaginaire. Tu as entendu et tu l'as dit, ce mot apaisé, quoi. Mm-hmm. Tu reviens à quelque chose de basique et primaire dans raconter des histoires autour du feu dans une grotte il y a des millénaires. C'est que c'est pour apaiser. Alors peut-être que toi-même, tu t'es auto-administré.
Oui, je pense.
Une forme d'apaisement.
Puisque quoi, personne ne pouvait me l'amener.
Voilà.
Oui, ouais. Donc oui, c'est vraiment exactement ça.
Mmh, c'est intéressant.
Et c'est la partie la plus thérapeutique de l'écriture, ça a été ça.
C'était ça.
Ça a été leur message. Parce qu'à force, je les laissais reposer, puis j'allais les relire. Et je sais très bien, je ne suis pas une ahurie. Je sais très bien que c'est moi qui les ai écrits, mais je les lisais. Je me disais, oh, quel beau message il m'envoie, alors que c'est moi. Mais je trouve ça, c'est vraiment, ça m'a aidé, ça m'a mis de la pommade, vraiment, très fort.
C'est super de pouvoir, comme tu dis, je me suis donné le droit, parce que je me dis, est-ce que je peux faire ça, est-ce qu'on va l'éditer
ou
quoi,
mais ce qu'on veut,
tu t'es donné ce droit-là, quoi. Donc, et si ça fonctionne, je pense aux effets même placebo ou quoi, si ça fonctionne, si toi tu te sens dans un espace qui est juste. Et que tu sens qu'il y a l'amour à ce moment-là, que ça t'apaise, tout va bien.
Mais c'est vraiment le message que moi je veux faire passer. Il faut arriver à se convaincre qu'on a le droit d'essayer quelque chose. Je ne dis pas que tout fonctionne, mais essayer, on a le droit d'essayer. Mm-hmm. Personne ne nous arrête dans l'écriture, en tout cas. C'est quand même un champ d'action qui est incroyable.
Mais c'est ça que je trouvais intéressant. C'est, tu expliquais ce temps, ce vide après le procès, après ces mois, ces années impliquées et puis connectées à certaines choses. Tu commences à écrire, ce vide se remplit peut-être un petit peu par un premier message sur un smartphone ou quoi, et puis à un moment donné, quand tu te mets vraiment à cette idée, j'écris, je vais raconter l'histoire de Maddy et de Sal, etc. Comment ce vide s'organise pour être rempli? Comment il y a des rituels? Comment ça s'organise? Parce que là, ça change aussi.
Oui, et ça va quand même assez vite, hein, puisque les lettres, je les ai relues, je sais exactement où je vais pour les lettres en soi. Et puis j'ai le début, je sais que ça va se passer dans une maison de repos et Salomé, c'est le prénom d'une petite fille que j'affectionne particulièrement, qui était la grande sœur des deux meilleures amies de Jules et Timon.
Ah, c'est beau, les petits clins d'œil tout le temps, j'ai l'impression
d'entendre. Oui, je les adore, ces trois enfants. Et donc j'ai le prénom, je sais que c'est dans une maison de repos et je sais que Maddy va arriver et que Maddy est sénile. Et donc il faut que Salomé entre en... Ouais. Et puis ça se met, et c'est souvent en soirée que j'écris, et il se fait que mon amoureux fait de la musique à ses heures perdues, et que lui, il a besoin de son moment à lui pour faire de la musique, et parfois même il sort faire de la musique avec ses amis, etc. Et je me retrouve seule, et c'est quelque chose qui est très 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 angoissant pour moi, parce que j'ai ce sentiment d'abandon immense, et je ne supporte plus. Mais bon, ça, l'assumer, c'est très compliqué. Mais remplir de quelque chose pour ne pas se rendre compte qu'on est seul, être face à une histoire et l'inventer, c'est... Et ça s'est rempli assez vite comme ça.
Ah ouais.
Du coup, peut-être je devrais en écrire un autre.
Mais franchement,
c'est la clé.
Tu vas me griller mes questions, hein, parce que moi, évidemment, ça me démange depuis tout à l'heure.
C'est
on y
peut-être
viendra,
la clé.
Mais...
C'est vrai. En tout cas, ça a comblé un vide immense de soirée. Et donc, je m'attablais à la table de la salle à manger et avec un verre de vin ou un thé ou... Et je me faisais du bien à écrire tout et n'importe quoi et à laisser du fluo fluorer sur l'ordinateur en me disant non, ça je dois y revenir, c'est écrit, mais il faudra
Là, t'es dans le travail d'écriture, vraiment quoi. Oui, parce que tu parles le petit verre de vin, le petit truc.
J'ai vraiment passé de très très bons moments à faire ça.
En tête à tête avec toi-même, les personnes que tu aimes, les personnages que tu as créés.
Se faire sourire en disant j'ose, mettre ce jeu de mots complètement louche, je le fais pas. Puis,
il y en a quelques-uns assez savoureux.
Je sais pas si c'est le mot savoureux, mais bon, il faut assumer aussi les choix qu'on fait.
Je trouve ça génial. Moi, je suis toujours admirative de ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis ce vide, je devais le remplir, mais quelque part, tu le remplis par de la beauté, de l'imagination. Ce petit moment d'apaisement entre toi et toi, je pense que beaucoup de gens peuvent remplir ce temps avec d'autres choses beaucoup moins vertueuses, beaucoup moins positives. Donc, tu as comme cet élan en toi.
À nouveau, c'est encore des mots, peut-être, c'est un choix qu'on fait.
Un choix.
Et il y avait des soirs beaucoup plus sombres, de ruminations intenses, de pleurs qui n'en finissent pas. Et c'est un choix. Est-ce que j'ai la force aujourd'hui de mordre sur ma chique et de me dire il y a du beau? Ou est-ce que je me mets dans le fond du divan et que je ne bois pas qu'un verre de vin, mais que j'en bois plusieurs et que je me laisse aller? Et il y a de tout, c'est une palette.
Tout à fait.
Mais c'est tout le monde à nouveau. Et c'est pas seulement parce que j'ai perdu mes enfants.
Exactement.
Tous les gens du monde vivent des moments positifs et plus négatifs.
Mais c'est ça qui est super touchant. Moi, je pense qu'il va falloir encore quelques jours pour que je m'en remette. Peut-être un peu plus long, mais ça, j'adore. Pour moi, le pouvoir d'un livre, c'est que tu fermes, tu as la page, la quatrième couverture, et t'as besoin de processer, de métaboliser, t'as encore besoin de rester un peu avec les personnages, rester encore un peu avec tes émotions. Encore même que je t'en parle ici, je le sens encore en moi, je sens qu'il va encore vivre avec moi quelques temps, donc je me dis, quelque part, t'as réussi quoi. T'as réussi ton pari. Ce choix de transformer et de en fait nous faire passer un truc dingue, simple, l'humanité. C'est humain quoi. Moi, je passe par ça, 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 ça. Tout est hyper humain. Et que ce soit une histoire voilà, où on perd ses enfants, où il y a un drame, ou une autre histoire d'un autre personnage, à la fin, je vais rien spoiler, mais tu fermes, tu te sens méga vivant. Méga vivant, quoi. Franchement...
Tu ressens la chance que tu as d'avoir encore beaucoup de vie devant toi.
Tout à fait.
Avec ou sans enfants.
Hein, avec finalement. Ou sans enfants. C'est ça que...
C'est pour ça que ouais. Ça, je voulais travailler ça, et je voulais que ce soit quelque chose... qui ne parle pas qu'aux mamans et sûrement pas qu'aux mamans qui ont perdu des enfants, qui parle à...
Mais tu l'as fait jusqu'à la fin, jusqu'au point final. On va pas révéler le fameux message à la fin, on en a parlé, qui est waouh, il est habité, il est fort et il est recevable par tout le monde, quoi. C'est ça qui est dingue. Et quand tu mets le point final, comment tu sens que c'est le point final? Comment? Parce que beaucoup de plumes ici dans le moque des livres ont fini leur manuscrit, leur premier manuscrit. C'est un moment toujours très spécial. À quel moment, comment on sait que là, punt.
Mais je tu vois, on en a parlé tout à l'heure, et c'est une question que je vais te renvoyer, parce que donc, toi, tu termines ton roman, et tu me dis, je vais encore prendre quelques jours, et le relire, jusqu'à un moment où je sentirai que j'ai assez travaillé dessus, et que j'ai donné tout ce que je pourrais. Ben, je vais être totalement limpide, et je sais qu'Anna va m'écouter. Moi, j'ai eu fini mon histoire, je savais exactement comment je voulais la terminer, et celui qui l'a lu, voilà, c'était... Je savais qu'elle n'était pas parfaite, mais moi j'avais englobé, j'avais fait vraiment ce que je pouvais. Je savais que sur le fond c'était ça, sur la forme il manquait quelque chose. Mais je savais que l'histoire était tellement forte que quelqu'un allait lire et m'aider, je me disais bien. Et donc Anna a saisi ça et j'ai une chance folle que ce soit elle qui l'ait fait évidemment, parce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre.
Autrement.
Autrement. Mais donc je savais... Quand tu mets le point final, normalement, tu dois avoir quelque chose, un produit fini, prêt à être imprimé.
C'est ce qu'on croit, en fait.
Mais moi, je savais que c'était... Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je me dis, imaginons, quelqu'un m'ait dit, oui, super, on l'imprime comme ça. Ça n'aurait pas du tout été ceci. Pas du tout.
Mais en fait, tu déconstruis quelque chose qu'on essaie de déconstruire aussi avec le podcast et les témoignages d'autres autrices et d'autres plumes. C'est qu'en fait, le point final, ce n'est que le début.
Oui.
C'est vraiment bizarre, mais ce n'est que le début.
Et donc, j'imagine que les jeunes plumes... qui ont été podcastés, si on peut dire ça comme ça, vont écouter la suite de tes podcasts. Et
j'espère.
Donc, j'ai ce mini conseil à donner quand j'entends, parce que je les écoute. Forcément, on est pressé quand on a mis le point final. On a très, très envie. On est prêt. Si on a fini, on est prêt à le partager. Il faut absolument de la patience. Il faut absolument se dire, je dois être accompagnée. Si c'est même de l'auto-édition, il faut prendre un coach littéraire. Je renvoie vers toi. Il faut se faire aider. On ne peut pas sortir quelque chose comme ça sans un regard extérieur.
C'est un peu casse-gueule. Hein. Je suis un peu cache, mais c'est un peu casse-gueule. Quoi.
De quelqu'un d'un peu plus détaché qui va dire, ok, l'histoire est jolie, mais ouh, loulou, ton style, ça ne va pas. Il faut travailler ça. C'est important.
Et tu l'as dit toi-même tout à l'heure, on est à un moment donné trop émotionnellement, personnellement impliqué que pour avoir suffisamment de recul.
Oui, et n'importe qui, parce que mon livre est évidemment très très fort, mais n'importe quelle histoire, on a mis ses tripes dedans forcément, puisqu'on veut l'imprimer, on veut qu'il soit lu. On n'imagine pas les copies qu'on laisse. On n'imagine pas.
C'est vrai, mais je trouve ça génial parce que ton point final, en fait, toi, t'as clairement identifié quasiment tout de suite, alors que c'est le point final parce que le fond, moi, j'ai raconté, voilà. Ça, c'est raconter, c'est pas ça. Écrire. J'ai raconté.
C'est ça.
Et maintenant, on va écrire ou réécrire c'est ça. Tu le savais dès le départ, quoi. Le processus, ce serait ça.
Je me suis quand même vite rendu compte. Je manque pas de confiance en moi totalement, mais je ne suis pas romaniste, moi, donc...
Ah, mais ça, je vais te désinguer, je vais prendre la...
Je ne me prétends pas...
Je vais te désinguer ce truc-là tout de suite, quoi. Tu vois, n'importe qui peut écrire.
Après, moi, j'ai compris ça plus tard avec Anna. Mais oui, mais t'as raison de le dire, parce qu'elle m'a dit directement, c'est un style très oral.
Ouais.
Mais c'était pas une critique, c'est un style très oral.
Mon
style est oral. Ben voilà, moi, j'assume, j'ai le droit d'écrire un style oral. Les gens l'ont bien lu, ils l'ont bien aimé.
Et puis ça parle, hein, parce que ça fait vrai, quoi.
Oui, ça fait comme si je faisais un petit journal intime. Mais moi, en fait, j'aime bien. Si j'écris un deuxième livre, je ferai le même style. C'est moi.
Oulala, j'entends. Si j'écris un deuxième livre,
ça force de parler avec toi, je me dis.
J'entends peut-être écrire un deuxième si j'écris. Et bientôt, ce sera quand?
Quand sortira-t-il?
Je taquine, mais c'est vrai que je me pose souvent la question. Je ne sais pas comment tu envisages maintenant que ça a été écrit édité, publié, réimprimé. On est là plusieurs mois après, l'histoire continue, suit sa vie, sa propre vie. Comment tu te dis que tu pourrais vivre ta vie maintenant, quoi ? Est-ce que c'est envisageable de dire, bah, en fait, c'est fait, une page se tourne, et en fait, c'est juste. J'ai raconté, j'ai vidé, j'ai exorcisé, tu prends tous les mots que tu veux, et c'est juste. Ou alors, comment tu te dis, mais en fait, c'est peut-être que le début de quelque chose. Je te pose des questions, hein, je ne sais pas.
Eh ben, c'est mignon que tu poses ça comme question, parce que donc, je travaille avec ma psy. Et j'ai à nouveau aucune honte de dire que je vois une psy, et depuis des années, et encore pour des années. Et moi, j'adore ça, et je conseille à tout le monde de le faire, même quand on est très sain d'esprit.
Puis c'est très enrichissant.
Exactement. Et puis, on a face à nous quelqu'un qui répond vraiment avec un détachement presque total, et qui nous remet face à nous-mêmes. Et donc, moi, je trouve, mais c'est à force d'avoir parlé avec elle, que ce livre, il m'a d'abord aidé, moi, vraiment fort, ça a été très thérapeutique, et quelques mois après, alors que je le disais déjà en juin, je trouve que c'est encore mieux.
Ah oui, super.
Je me dis peut-être que la suite, c'est pas d'écrire un autre livre, mais c'est peut-être de me dire maintenant pourquoi tu n'aiderais pas les autres.
Oui.
Maintenant que moi, je me suis convaincue de ce message d'espoir, est-ce que je n'irais pas le partager avec des gens dans des cercles de deuil
où oui.
Je n'ai jamais participé à rien de tout ça.
Voilà où tu arrives à
voilà,
ce stade.
Voilà, et ma psychologue trouve ça génial comme idée, évidemment.
Bien sûr.
Mais donc ça veut dire aller partager et se dire mon histoire est terrible, il y a d'autres histoires terribles, est-ce que je peux faire passer un message d'espoir oralement ?
Et puis t'es déjà dans l'enseignement, la pédagogie, la transmission.
Oui.
Et encore, et
oui,
toi-même.
C'est ça, match moi,
toi,
c'est,
pour
ça,
toi.
C'est ça.
Ça c'est encore autre chose, oui, je sens qu'il y a des portes qui restent encore
piste,
un peu ouvertes.
La clé est toujours sur la porte.
Bah, c'est toujours en discutant qu'il y a des choses qui bougent aussi. J'entends que tu partageais un conseil, c'est vrai, tu as parlé de rituel. Donc c'était le soir plutôt,
toujours.
Ce moment où tu es seule à la maison
Je l'ai déjà fait avec Julianne à la maison, mais pas à côté de moi.
Ah, oui.
Il m'a donné quelques conseils, je lui lisais des petits extraits. Et alors, lui, les petits jeux de mots, il adore, c'est un jeu qu'on a entre nous. Et donc, il a pu donner des petits trucs et astuces.
Oui, donc il a été
aidant.
Oui. C'est chouette, ça, d'avoir aussi quelqu'un qui donne si proche, puis qui a été aussi au contact de l'histoire depuis le début, en fait.
Oui, et qui, lui, a imposé sa légèreté dans ma vie, et qui s'est imposé dans le sens beau du terme.
Oui.
Il a vraiment été... la légèreté dont j'avais besoin.
C'est fou. Et Julianne, c'est aussi un personnage dans l'histoire.
Oui. Que je n'ai pas
un bel homme, apparemment. Oui. On a envie de le voir.
Que je n'ai pas enjolivé tant que ça. Je l'ai peut-être un petit peu idolâtré, mais pas tant que ça.
Non, mais je trouve c'est beau. On sent la femme amoureuse, en fait. Pour terminer encore sur mes analyses où je m'emballe. Mais on sent la femme amoureuse. On sent ça. Et du coup, tu évoquais un conseil tout à l'heure, et je trouve ça génial parce que tu es aussi dans la générosité, spontanément, tu es déjà en train de dire, on écoute, il y a peut-être des choses que je peux passer de cette expérience vraiment de l'écriture. Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent à l'esprit ? Est-ce que tu te dis...
Des conseils ?
Ouais, des conseils que tu peux donner
vraiment,
ton expérience.
C'est peut-être bateau, mais on est quand même en 2021, mais vraiment prendre son smartphone et noter des choses qui nous passent par la tête, moi j'adore.
Ouais.
J'ai déjà, je ne sais pas combien, de premières phrases de prochain roman dans mon...
Ça y est, on y revient.
Mais non, pas pour l'écrire.
Non, je rigole.
Et j'aime aussi, et c'est pour ça que mon roman ne correspond pas à ce que moi je lis, mais j'adore lire et photographier des extraits, ou réécrire des extraits. Baptiste Beaulieu, par exemple, il est très très inspirant, je trouve.
Oui.
Je trouve ça magnifique de lire et de se dire, oh, cette phrase-là, j'aurais voulu, moi, qu'elle vienne dans ma tête un jour. Et j'adore ça.
Donc en fait c'est écrire, prendre en photo, donc le smartphone est un outil de notre modernité pour pouvoir aussi créer, écrire,
et oui, et ça,
inspirer.
Inspirer et s'apaiser, je trouve, parce que moi j'ai une phrase de Baptiste Beaulieu, je vais la photographier et la mettre sur mon Instagram pour ne jamais l'oublier, la commenter, me dire ce que moi j'ai ressenti en voyant une chose comme ça. Ça me parle, cette histoire de Baptiste Beaulieu qui dit « je vous continue », je trouve ça tellement magnifique, je la garderai toujours, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais « je continue mes enfants ». Je trouve ça magnifique.
Ah, c'est beau.
C'est ça, lire, je trouve. C'est ça que je conseille aux gens, c'est lire, mais retenir 2-3 phrases par livre. Et si ça ne parle pas, c'est que ce n'est pas un bon livre.
Oui,
s'il
parce
qu'il y a rien...
y en a qui ne sont peut-être pas destinés à être pour nous, mais c'est vrai que je vous continue et tu continues, c'est waouh, ça m'émeut.
Clin d'œil à Baptiste Beaulieu, que j'admire personnellement.
Oui, on lui fait un petit clin d'œil, on lui enverra le podcast.
On ne sait jamais.
Et justement, je voulais venir à ce travail d'écriture, à cet engagement physique, émotionnel, personnel, un défi aussi. Toute cette histoire, j'ai l'impression que ce sont des défis sur défis aussi.
Oui, j'aime beaucoup ça, moi, les challenges.
Ouais.
Oui, beaucoup.
C'est vrai. En fait, on revient, on a commencé avec Madeleine, qui reste Madeleine, et je me dis, défi, Madeleine, ça reste ça aussi finalement.
Oui.
La même personne qui est mue par les mêmes choses peut-être.
Oui, c'est vraiment un défi perpétuel, la vie. Mm-hmm. Mais à nouveau, oui, c'est pas que moi, je ne ramène pas. Mm-hmm. À nouveau, je crois que tout le monde.
Oui.
Tous les jours, on se lève et on se dit j'y vais pas. Je le fais pas.
Oui, mais là, tu fais, hein, pour le coup, tu fais pas mal, hein, franchement.
J'ai fait.
J'ai fait. Oui, bah, tu es toujours là en train de répondre aux questions généreusement, hein, donc tu continues. Tu continues, c'est vraiment le terme que
je
tu as
continue, oui,
en
c'est
tête,
vrai.
Que oui. Tu prononces. J'avais cette question, du coup, qui vient un petit peu autour du livre, autour de la création. C'est quelque chose dont on a parlé et c'est une question qui m'est venue très rapidement en tête. Est-ce que, et je me suis allée un peu bateau, et puis en fait non, parce que pour moi elle ramène à l'essentiel. Est-ce que tu as senti, dans ces moments où tu écrivais, pas que tu veux parler à tes enfants, mais est-ce que tu l'as senti présent, là, avec toi ou autour de toi, dans tout ce travail d'écriture pour ce roman, ce premier roman?
Eh bien, pas tout le temps, parce qu'il y avait des moments sans, mais il y a des moments, et tu dis que la question est bateau, mais ma réponse va peut-être être un peu bateau, mais quand je parle d'eux de façon intense, d'ailleurs j'ai ça aujourd'hui, ouais. J'ai les mains qui tremblent un petit peu et j'ai froid.
Ah oui.
Et donc, ça c'est un peu bateau, mais moi j'aime bien me convaincre que la présence, j'étais pas du tout comme ça avant, mais c'est magique de se dire, et si?
Oui.
Et si en fait ils étaient vraiment sur mes épaules tous les deux en train de dire vas-y maman fais-le dire.
Ah je frissonne.
Donc moi je me dis oui, et alors il y a des phrases en les relisant plus tard je me suis dit mais non c'est pas moi qui ai écrit ça quand même.
Oui.
Et donc je me dis c'est que j'étais inspirée par quelque chose de très fort qui me disait écris ça.
Oui.
La dernière phrase avant je ne sais même plus où... si c'est la dernière phrase.
Je crois que c'est la dernière.
Avant l'épilogue, oui.
Oui,
cette
oui.
phrase-là, quand je l'ai relue le lendemain, je me suis dit, mais enfin, c'est pas moi, c'est pas de moi.
Mais tu dis que tu trembles, t'as froid, dans certains cas, pour l'avoir lu, cette dernière phrase, ça fait vibrer. Tu sens quelque chose en toi qui tremble aussi, qui reçoit quelque chose de fort. Et donc, je me suis dit, je vais m'autoriser à poser cette question-là,
oui,
parce
je me suis...
qu'on perçoit quelque chose.
Je me suis pas sentie possédée, je ne me dis pas vraiment qu'ils sont à côté de moi sans arrêt, sinon je ne serais pas... Mais il y a quelque chose, je veux qu'il y ait quelque chose. Je trouve ça magique de se dire qu'il y a quelque chose, un accompagnement.
Magique, c'est un mot que tu as aussi beaucoup, beaucoup utilisé dans le livre.
Moi, je fais appel à la magie énormément. Mm-hmm. Mais ça, c'est forcé. Quand on ne peut plus avoir ce qu'on veut, on fait appel à la magie. Mm-hmm. Après, je peux confirmer que la magie n'opère pas toujours.
Oui, pas toujours. C'est ce qui crée que c'est une magie aussi, parce qu'elle arrive. Et en fait, je repense à comment j'ai découvert ton roman, comment j'ai découvert que tu écrivais. Je trouve ça magique, je te le dis avec beaucoup d'honnêteté, que tu sois là, ici, avec moi, que tu me parles, moi, au petit podcast liégeois, je me dis, eh ben, c'est magique qu'on puisse en plus pouvoir avoir cette aisance, cette transparence, et que tu fasses confiance, et que je puisse poser toutes les questions que j'ai envie de poser, et je suis là, mais waouh, je mets pas de garde-fou, je...
Mais on en revient, tu vois, la boucle est quand même bouclée, on revient, on part de Madeleine et Héloïse en secondaire, on ne change pas, on a notre parcours de vie qui est différent, t'as pas vécu non plus que du bonheur, personne,
non.
Et on fait avec ce qu'on a, et on arrive aujourd'hui, et c'est marrant, parce qu'on pourrait très bien retourner à la soirée, je vois exactement
ah,
dans
oui,
quel endroit,
je m'en souviens.
On aurait du mazout, et moi ça va.
C'était de mazout.
Ça m'irait très très bien, je trouve qu'on a changé, on a évidemment évolué, et des choses horribles, et on peut quand même... On peut quand même être qui on est.
Tout à fait. Alors ça fait une super transition parce que je sens que les mots sont au bord de tes lèvres. La dernière question du podcast, c'est justement, est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, avec tout ce chemin qui a été le tien jusqu'à présent, il y a des mots qui sont peut-être pas ceux d'il y a 6 mois ou d'il y a 5 ans. Est-ce qu'il y a un mot, des mots, tu les lis, tu les vois, ou tu les écris, ou tu les prononces? Est-ce qu'il y a des mots qui te délivrent?
Ben, il y en a un qui va s'apposer suite à notre conversation, clairement. C'est continuer.
Oui.
Je trouve ça vraiment...
Il est en train d'arriver, je trouve.
Oui, il fallait qu'il sorte, celui-là. Clairement, c'est bateau, ça, mais amour, amour plus, fou qui pétille, qui s'attire, qui clignote.
Rappelons-le, tout le monde a besoin d'amour, franchement.
Oui, c'est hyper important. Et je crois vraiment que c'est ça qui porte les gens. Pas forcément un amour physique, un amour d'amoureux. Ça peut être un amour d'une maman, d'un papa, d'un frère, d'une sœur, de n'importe quoi. Mais il faut se sentir aimé dans la vie, vraiment. Moi, en tout cas, ça m'a sauvée.
Ouais.
Ça me sauve. Et le dernier, je regarde la couverture du livre et je me dis... j'ai envie de dire pétiller.
Oui, mais ça pétille, là.
J'ai envie de dire pétiller. C'est vraiment ce que je veux faire. Moi, je veux pétiller.
Eux,
ils font pétiller ma vie.
Oui.
Et donc, je vais mettre pétiller.
Mais tu es pétillante. On le sent.
Derrière
en tout cas.
On peut l'imaginer derrière le micro.
Oui, on sent. J'espère que les gens vont le sentir. Il y a un peu de magie. Il y a des petites lucioles presque qui tournent autour de
c'est
nous.
C'est ça, les étoiles clignotent.
Les étoiles, elles brillent fort là. Madeleine, je suis époustouflée, je suis émue. Je voulais revenir à toi pour te remercier. Mais infiniment, d'une infinitude, tu n'as pas idée de cette confiance, de cette générosité. Tu viens déposer tout ça. Pourquoi générosité ? Parce que je pense que tu l'envoies à plein de gens qui vont écouter. Et merci parce que j'ai retrouvé une bonne copine aussi.
Moi, je te remercie parce que tu mets un cadre absolument accueillant. On est là autour d'une table, on ne voit même plus le micro et on se dit, on a une petite discussion sympa entre femmes, entre mamans même.
Oui.
Et je trouve, c'est doux et c'est tout ce qu'on veut. J'imagine que les plumes qui écoutent, c'est ça qu'elles veulent aussi, c'est de la douceur et...
Et de l'inspiration aussi.
Et on dit ce qu'on veut.
Ouais.
On a le droit de dire ce qu'on veut, c'est ça la vie.
Tant mieux. Merci.
Merci à toi.
Merci 10 fois, 20 fois, 30 fois.
Voilà, cette petite bulle intime se referme. Merci à toi, belle page, blanche, brouillonne, bien écrite, d'avoir écouté. Merci à toi, belle plume, précoce, naïve ou affûtée, d'être curieuse et d'explorer. Si toi aussi tu veux te plonger dans l'univers magique et thérapeutique des mots, tu peux découvrir mes ateliers d'écriture et de bibliothérapie, ainsi que mes accompagnements individuels sur mon site internet, sur Facebook ou Instagram. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oublie pas. Respire et laisse les mots te délivrer.